Chapitre 14. Un bruit et ses conséquences. Un entretien confidentiel entre une mère et sa fille. Une courageuse résolution prise et mise immédiatement à exécution. Ce jour-là, après la réception de St. James, un grand dîner, presque exclusivement composé des membres de la famille, avait lieu chez le général Hubert, et la plupart des convives devaient se retrouver, le soir, au bal donné par Mistress O'Donaghue. Madame Hubert et sa fille avaient toutes les deux trop souffert dans la matinée pour désirer revenir sur la cause de leur souffrance, et, si on les avait consultées, le nom de Madame O'Donaghue et celui de sa fille n'eussent pas été prononcés de la soirée. Mais Sir Edward Stephenson, qui n'était au courant de rien, n'eut pas plutôt vu le dessert terminé et la porte refermée sur les domestiques, que, s'adressant à Mistress Hubert, à la droite de laquelle il s'était placé, il commença ainsi. « J'ai éprouvé aujourd'hui une vive contrariété, ma chère Agnès. »«
En vérité, ah, voilà qui m'afflige !» répondit-elle. « Puis-je vous en demander quelle en a été la cause ?»«
Sans doute, et je vais vous le dire sans détour. Ce jeune garçon, Seymour, que malgré tous nos dissentiments, j'aime comme s'il était mon fils, agit décidément comme un imbécile ou comme un malhonnête homme. Je ne saurais vous dire quelle désillusion cela est pour moi. Je lui croyais pourtant un noble cœur et je lui faisais l'honneur d'un esprit fin et distingué. Aussi, je ne saurais vous dire à quel point j'ai été surprise et affligée aujourd'hui.
Qu'est-ce que vous dites donc avec une figure si grave, Edward ? Demanda le général Hubert. Il me semble avoir entendu quelque chose comme surpris et affligé. Est-ce un secret entre vous et Agnès ? J'espère qu'il ne vous est rien arrivé de grave.
Mais si, vraiment, Hubert, reprit Sir Edward sur un ton qui ne permettait pas de douter de son sérieux. Oh, ce qui m'a contrarié est loin d'être un secret maintenant. Il n'y a parmi nous personne, je crois, qui n'ait l'honneur de connaître Madame et Mademoiselle O'Donaghue, de même qu'il n'y a personne non plus qui n'ait plus ou moins entendu parler de mon ex-pupille, Sir Henry Seymour. Donc, mes bons amis, vous êtes parfaitement en état de juger de ce que j'ai dû éprouver en voyant ce jeune homme se donner, lui et sa grande fortune, à la jeune personne que je viens de nommer.
Quelle sottise ! S'écria le général avec indignation. J'ai déjà entendu faire cet absurde cancan, Sir Edward, mais je n'aurais jamais cru vous l'entendre répéter.
Et, en effet, Hubert, jamais je n'en aurais dit un mot si ce que j'ai vu aujourd'hui ne m'avait tellement confirmé la chose qu'il ne m'a plus été possible de douter de la réalité. C'est Mucklebury qui, le premier, m'avait dit que cette écervelée s'était fiancée à cette terrible Miss O'Donaghue. La beauté de cette fille est d'un genre si révoltant que je l'aurais bien plutôt cru faite pour repousser Seymour que pour le captiver. Et j'ai soutenu à sa seigneurie qu'elle se trompait, bien qu'elle m'affirmât tenir la nouvelle de la meilleure de toutes les autorités. Mais vous savez ce que dit l'adage au sujet de ce qu'on voit. Eh bien, j'ai vu, de mes yeux vu, aujourd'hui, Sir Henry, paradant au milieu de la foule, à St. James, donnant le bras d'un côté à cette inconcevable mère et de l'autre à cette indescriptible fille. Je ne savais qu'en penser, car ne faut-il pas vraiment être à moitié fou pour se montrer dans une situation pareille quand on s'appelle Sir Henry Seymour ?
Mais trouvez-vous que cela suffise pour justifier votre croyance sur ce stupide mariage ? Répondit le général.
Ah, ceci n'est pas le pire. Où il les avait prises et ce qu'il est devenu avec elles, Dieu le sait. Mais il y avait bien près d'une heure que j'avais vu passer ce trio quand je me décidais à descendre les escaliers, ayant été moi-même retenu par une ancienne connaissance de Berlin que je n'avais pas vue depuis des années, et là, au fond du vestibule, dans un coin aussi retiré que possible, qu'est-ce que je découvre ? Sir Henry et sa belle amie en tête à tête, un temps infini après que la grande majorité des invités étaient partis. La jeune personne se pendait à son bras avec un air de familiarité qui m'a été odieux, car il m'a convaincu que s'il n'avait pas l'intention de l'épouser, il le lui avait laissé croire.
Oh, entre les deux, la différence est si peu de choses qu'elle ne vaut guère la peine d'être discutée.
Dit Mistress Hubert en se levant vivement, après avoir envoyé à Lady Stephenson ce coup d'œil mystique qui signifie que toutes les dames présentes doivent se lever.
Le général Hubert parut surpris de cette retraite plus hâtive que d'habitude.
« Allez-vous nous quitter déjà, Agnès ?» dit-il.
« Avec votre permission, général, » répondit-elle, « la matinée a été très fatigante pour Élisabeth. Je n'ose proposer de ne pas l'emmener ce soir, aussi je voudrais la voir se reposer sur un sofa en attendant l'heure de se rendre à la fête de Mistress O'Donoghue. »
Le rapide regard que le général jeta sur sa fille en entendant ces mots fit-il la lumière dans son esprit. Pour tous, c'eût été douteux, mais non pour sa femme. Elle comprit tout de suite à quel sentiment il obéissait quand, se levant sans faire une question de plus, il alla ouvrir la porte à ces dames, trouvant moyen de saisir la main d'Agnès et de la serrer avec émotion. Pourtant, jamais Mistress Hubert n'avait parlé, même à son mari, de ce qu'elle avait cru découvrir dans le jeune cœur d'Élisabeth envers Sir Henry Seymour, et le général était loin d'avoir deviné à quel degré d'intensité était arrivé ce sentiment. Il avait cru remarquer de la part du jeune baronet des preuves réelles d'admiration pour sa fille, et tout en désirant voir passer encore une année ou deux avant de parler mariage, il s'était mis à surveiller le caractère du jeune homme avec beaucoup d'intérêt, cultivant volontiers l'idée d'un lien aussi proche et aussi cher entre Sir Henry et eux. Et bien que cette haïssable rumeur de la cour faite par Sir Henry à Miss O'Donoghue lui fût déjà revenue de plusieurs côtés, il s'était toujours roidi contre elle, tenant la chose pour impossible, jusqu'au moment où il avait vu l'effet qu'elle faisait sur sa femme. Mais quelque pénible pour le général qu'eût pu être cet incident, ce fut bien autre chose pour Agnès. Elle savait ce qu'il ne savait pas, lui, que le cœur d'Élisabeth n'était plus libre. Malheureusement, cette conviction était venue trop tard pour que les précautions puissent signifier quelque chose, et en voyant combien le jeune homme paraissait attaché à sa fille, combien il se montrait digne de faire son bonheur, elle avait calmé ses inquiétudes. Ceci posé, il est superflu de dire avec quels sentiments mélangés de craintes et d'incrédulité Mistress Hubert avait écouté le récit qu'on venait de faire au sujet de la passion de Sir Henry pour Miss O'Donoghue. Tout invraisemblable que ce récit lui parut, il y avait là des circonstances telles que lorsqu'elle quitta la table, c'étaient les craintes qui avaient pris le dessus. Et pourtant, sans la conduite singulière de Caroline dans toute cette affaire, Mistress Hubert aurait encore été disposée à douter du témoignage même des yeux de Sir Edward. Mais la pauvre fille s'était montrée si embarrassée, si malheureuse, depuis la visite de Madame et de Mademoiselle O'Donoghue, chaque fois que ce sujet revenait dans la conversation, que Mistress Hubert avait renoncé à en parler uniquement par pitié pour elle. En passant dans le vestibule, Élisabeth avait pris un bougeoir sur la tablette de marbre et s'était dirigée vers sa chambre à coucher. Quelques minutes après, sa mère l'y suivait. « Vous souffrez, ma chérie ?» s'écria Mistress Hubert en la voyant assise, pâle et immobile, avec de grosses larmes qui roulaient sur ses joues.
« Mon Élisabeth chérie, dites-moi ce que vous éprouvez. Confiez-vous à moi, cher amour. Je suis sûre que cela vous fera du bien. » « Oh, maman, comment pourrais-je vous exprimer ce que je ne suis pas capable de m'expliquer à moi-même? Je ne voudrais pas avoir un secret pour vous. Si j'avais été faible ou sotte, je voudrais avant tout vous le dire, ma bien-aimée mère. Mais je ne saurais dire comment cela s'est fait. Je ne croyais pas, non, je ne le crois pas encore, que je puisse être assez faible, assez sotte, assez tout ce que je déteste le plus pour m'imaginer que j'aimais quelqu'un qui en aimait une autre pendant ce temps-là. Oh, ma mère, votre fille n'aurait pas dû être aussi vile que cela. »
Il n'est pas question de vilenie, mon enfant, répondit Mistress Hubert fortement émue. Vous vous croyez aimée et vous aviez de fortes raisons pour cela. Mais ceci est un sujet que je ne dois pas oser toucher. Croyez-moi, Élisabeth, tout sera vite effacé. Vous avez beau branler la tête, vous ne pouvez entamer ma conviction, ma chère fille. Si vous avez aimé ce jeune homme, c'est qu'il semblait être digne de votre amour. Maintenant que nous voyons qu'il ne l'est pas, vos sentiments envers lui vont changer, et si complètement, vous verrez, que vous arriverez à douter de les avoir jamais entretenus.
Cela se peut, mais quand oublierai-je, maman, que ma vanité a pris pour de l'amour ce qui n'était que de l'amitié pour l'ami de sa sœur?
Ce n'est pas mon amour pour lui qui me rendra misérable, mais le mépris que j'ai de moi-même. »
Vous verrez les choses d'ici à peu sous un autre aspect, Élisabeth, et cet aspect sera le véritable. Mais comme c'est impossible pour le moment, je ne veux pas vous fatiguer à discuter. Peut-être vaudrait-il mieux ne pas venir ce soir à ce détestable bal. Nous sommes bien assez nombreux ici, tous prêts à y aller, pour contenter les exigences de la parenté, fût-elle 10 fois notre tante. Et vraiment, il vaut mieux que vous restiez tranquillement ici.
C'est bien ce que j'aimerais le mieux, maman, mais à moins que vous ne l'exigiez, je n'y resterai pas.
Ce sera une rude épreuve pour vous, chère enfant, et il est bien clair que vous n'êtes pas assez forte ce soir. Nous ne voudrions, ni vous ni moi, que personne puisse douter de ce que vous éprouvez.
« Ayez confiance en moi !» dit Élisabeth en suppliant.
« J'ai confiance, ma bien-aimée fille. Vous ferez comme vous voudrez quand le moment sera venu. Mais d'ici là, chérie, vous devriez vous coucher. Clarige vous recoiffera très bien. » Élisabeth dit oui par un signe de tête et après l'avoir tendrement embrassée, sa mère quitta la chambre. Quand elle rentra au salon, Mrs. Hubert trouva toutes ses dames, Lady Stephenson, sa belle-sœur Nora, Mrs. Henderson, Miss Elizabeth Peters et les deux demoiselles Nivette, car force d'adresse et d'habileté, Mrs. O'Donoghue était parvenue à inscrire sur la liste de ses visites, discutant avec chaleur la possibilité de la passion de Sir Henry pour Miss O'Donoghue. Lady Stephenson disait que, dans cet ordre de choses, tout était possible, mais que, du moins, ce n'était guère probable. La vie de Mrs. Henderson était qu'après la scène à laquelle elle avait assisté entre Miss Caroline Seymour et les dames O'Donoghue, il était au contraire fort probable que le récit qu'elle venait d'entendre était très vrai. La conduite de la jeune fille, jusque-là si inexplicable, devenant alors fort plausible. Miss Peters déclarait que, bien que Mrs. O'Donoghue eût été sa tante par alliance, elle devait à la vérité d'avouer qu'elle la croyait on ne peut plus capable d'accaparer un jeune homme et de lui faire épouser sa fille, qu'il le voulût ou non. Les deux demoiselles Nivette opinaient dans le même sens, affirmant que rien n'était plus fréquent, qu'on voyait constamment des jeunes gens amenés par d'habiles manœuvres à épouser des femmes qui, sans tout cet artifice, leur eussent semblé odieuses, et que c'était là la raison pour laquelle il y avait tant de jeunes personnes charmantes non mariées. C'était qu'elles avaient préféré rester filles à agir de cette façon. Et comme ces demoiselles avaient passablement dépassé la trentaine, leur appréciation avait un certain poids. Mais malgré tout ceci, malgré ce qui avait été dit auparavant, Mrs. Stephenson ne fit aucun scrupule d'élever sa voix argentine pour déclarer qu'elle était intimement convaincue que le récit de tout à l'heure n'était pas plus basé sur la vérité que ne l'avait été dans les siècles passés la célèbre erreur qui plaçait notre humble planète au centre du système solaire. Quand on vit entrer Mrs. Hubert, toute la société réclama à grands cris son avis. Mais sa réponse fut plus sentencieuse que satisfaisante. « Le temps fera la lumière, » dit-elle. Il s'écoula encore 2 heures, pendant lesquelles on prit le café tout en critiquant son prochain. Naturellement, toutes les personnes qui avaient été à la cour passaient en revue tous ceux qu'elles avaient vus, et, en l'honneur de Mrs. Henderson et de sa sœur, les seules dames qui n'eussent pas été à Saint-James dans la matinée, Mrs. Stephenson se lançait dans une description détaillée de la toilette, de la tournure de Mrs. O'Donoghue et de sa fille. Les messieurs étaient revenus au salon et, de temps en temps, on entendait les éclats de rire que poussait Frédéric Stephenson au saillie de sa jolie femme, dont il admirait toujours l'esprit mordant et enjoué, bien qu'il protestât contre ses malices à l'égard des O'Donoghue, déclarant que le mari surtout était un charmant garçon et qu'il comptait bien les avoir à dîner avec Seymour très prochainement. Enfin, la pendule sonna minuit. « Agnès, les voitures attendent depuis longtemps, » dit le général. « Si nous voulons aller à ce bal, je crois que ce serait le moment. » Toute la société déclara être parfaitement prête. Mais où était Élisabeth ? « Attendez-nous un instant, » dit Madame Hubert,
et elle quitta le salon pour aller savoir ce que sa fille avait décidé. Ce fut bien doucement qu'elle ouvrit la porte d'Élisabeth. Elle avait quelque espoir de la trouver endormie. Mais elle se trompait, la jeune fille était assise, toute prête. Sa toilette ne différait de celle de la matinée que par l'absence de la traîne et des plumes. Elle lisait et ses beaux traits ne portaient aucune trace de l'émotion qu'elle avait ressentie.
« Vous voulez donc y aller, mon cher amour ?» lui dit sa mère.
« Oui, maman, je suis prête !» répondit-elle en s'enveloppant vivement dans sa pelisse. Et elle partit pour cette expédition qui, lorsqu'on savait ce qui se passait dans son cœur, demandait autant de courage qu'il en faut aux soldats pour s'élancer sur la brèche où la mort est inévitable.